Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 31 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord, les titres du journal de ce jeudi. Le Canada suit la France en reconnaissant la Palestine comme État souverain lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a fait cette annonce affirmant que son pays condamne le fait que le gouvernement israélien ait laissé une catastrophe se produire à Gaza. Le dernier rapport de la Commission de la productivité sur les objectifs nationaux Closing the Gap pour les aborigènes et insulaires du détroit de Torres révèle les inégalités en Australie en matière de justice pour les mineurs, d'incarcération des adultes, de suicide et de placement des enfants hors de leur foyer qui s'aggravent. En Australie, Scott Farquhar, milliardaire et co-fondateur d'Atlassian, affirme que l'Australie pourrait devenir un pôle d'infrastructure d'intelligence artificielle, mais qu'elle devrait moderniser sa législation actuelle sur le droit d'auteur. Et on passe au journal de ce jeudi. Le Canada suit la France en reconnaissant la Palestine comme État souverain lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Le Premier ministre Mark Carney a fait cette annonce affirmant que son pays condamne le fait que le gouvernement israélien ait laissé une catastrophe se produire à Gaza.
This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much needed reform, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future.
À la veille de l'échéance du 1er août pour les négociations commerciales, le président des États-Unis a annoncé l'imposition de droits de douane de 25% sur les importations en provenance de l'Inde. Donald Trump a également évoqué une taxe supplémentaire à l'importation, une pénalité pour l'Inde achetant du pétrole et du matériel militaire russe, des échanges commerciaux qui, selon lui, favorisent la guerre en Ukraine. La nouvelle pénalité doit entrer en vigueur demain vendredi, alors que des droits de douane drastiques sont appliqués aux partenaires commerciaux des États-Unis dans le monde entier. Donald Trump affirme que les négociations tarifaires sont en cours.
Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens.
Et à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane des États-Unis, demain 1er août, le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré qu'il n'y avait aucune confirmation quant à savoir si les importations australiennes seraient soumises au tarif de base de 10% convenu précédemment. Le président américain a récemment annoncé des droits de douane de base de 20% pour les pays n'ayant pas encore conclu d'accord avec les États-Unis. Jim Chalmers a déclaré sur Channel 9 que l'administration Trump avait fait tellement d'annonces commerciales que malgré un dialogue à plusieurs niveaux avec ses homologues américains, il ne pouvait pas être sûr de ce qui se passait.
And so we don't pretend that anything in this environment is necessarily set in stone, but our understanding, our expectation, our working assumption is that we get the 10%. From our point of view, the 10% is too high. We think it should be zero.
Scott Farquhar, milliardaire et cofondateur d'Atlassian, affirme que l'Australie pourrait devenir un pôle d'infrastructure d'intelligence artificielle, mais qu'elle devrait moderniser sa législation actuelle sur le droit d'auteur. Scott Farquhar affirme que l'intelligence artificielle pourrait également servir à atténuer la pénurie de logements en la formant à gérer les autorisations immobilières et en réduisant les formalités administratives. Il a exhorté les chefs d'entreprise, les dirigeants et les fonctionnaires à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien pour mieux comprendre cette technologie. Scott Farquhar a souligné l'opportunité de devenir un pôle de données.
Why host your foreign data in any other country when you could host it in Australia with cheaper power, faster build times under the laws of your own country? We could be the provider of choice for every government in the region and for every business that needs a Southeast Asian data center.
Le dernier rapport de la Commission de la productivité sur les objectifs nationaux Closing the Gap pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres révèle que les inégalités en Australie en matière de justice pour les mineurs, l'incarcération des adultes, le suicide et le placement des enfants hors de leur foyer s'aggravent. Sur 19 objectifs nationaux, le pays ne devrait atteindre que 4 d'entre eux au cours des 6 prochaines années, notamment en matière d'emploi et de scolarisation en maternelle. L'espérance de vie, le poids à la naissance, le niveau de scolarité niveau terminal ou équivalent et la taille des logements se sont améliorés, mais ne devraient pas atteindre les objectifs de 2031. Le trésorier Jim Chalmers se réjouit de la publication de nouvelles données montrant que l'inflation globale et sous-jacente est tombée à son plus bas niveau en 4 ans au cours du trimestre de juin, ouvrant la voie peut-être à des baisses de taux d'intérêt. Le rapport du Bureau australien des statistiques indique que l'inflation moyenne tronquée, qui exclut les éléments volatiles pour mesurer la croissance des prix, s'est établie à 0,6% au cours du trimestre de juin, conformément aux attentes des économistes. Sur Channel 9, Jim Chalmers déclare que ce sont de bons chiffres du taux d'inflation.
It was a powerful demonstration of the progress that Australians have made. 3 years ago, inflation was 3 times higher and rising. We've been able to get that inflation down, kept unemployment low, got real wages growing again, and all of those are good things.
La procureure générale, Michelle Rowland, a défendu la décision du gouvernement fédéral d'inclure YouTube dans l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le gouvernement est revenu sur son projet initial d'exempter YouTube de l'interdiction, invoquant ses ressources éducatives, mais a depuis décidé d'inclure le site de partage de vidéos tout en garantissant aux enseignants la possibilité d'utiliser le contenu approuvé par l'école via leur compte. S'adressant sur Channel 9, Madame Rowland a déclaré avoir reçu en juin de nouvelles preuves du commissaire à la sécurité électronique selon lesquelles 70% des enfants subissent les préjudices les plus impactants liés à l'exposition au contenu sur YouTube.
YouTube does have educational features. I know, you know, my daughter's learned number blocks there. Teachers will still be able to send links home that you can use if you need to. They'll be able to use their own account in the classroom. YouTube Kids still exists for when we do need our kids. There is a place for social media, obviously, but social media platforms have a social responsibility, and with a stat like 4 out of 10 kids experiencing online harm, as the Minister for Communications, I had to act.
La sénatrice des Verts, Sarah Hanson-Young, estime que le gouvernement devrait supprimer l'interdiction et se concentrer sur la nécessité de forcer les entreprises de médias sociaux à garantir la sécurité de leurs plateformes.
Well, the backflip from the government today on YouTube and the social media ban shows what a mess this whole policy is in. This is not going to make young people safer online. It's not going to give parents the confidence that their kids are safe, whether they're using a phone, an iPad, or a smart television. What the government really needs to do is get on with legislating a duty of care and licensing these social media companies.
Alors qu'un nombre croissant d'adultes en Australie retardent les examens dentaires de routine en raison de leurs coûts, les dentistes exhortent les parents à ne pas commettre la même erreur avec leurs enfants. L'association dentaire australienne indique qu'environ 1,5 million d'enfants ne bénéficient pas de soins dentaires gratuits chaque année. Bien que les soins dentaires pour adultes ne soient pas couverts par Medicare, le gouvernement offre aux familles admissibles jusqu'à 1 132 $ de soins dentaires tous les 2 ans pour les enfants de moins de 17 ans. Avec seulement 38% des personnes éligibles à ce programme qui y ont recours, l'Association dentaire australienne souligne qu'il est important que les parents en connaissent le fonctionnement et les modalités d'accès. Dr Chris Sanzaro, président de l'association, affirme que retarder les traitements pour les enfants réduit leurs options futures.
Children who attend the dentist early, we can find the holes in their teeth. If there's any decay developing, we can find that much earlier when it's smaller. Problem with waiting for children to get to the dentist when they're experiencing pain or discomfort is often those holes are so deep into the teeth, there's much less reduced options for treatment, including the need to potentially extract teeth. And that's not a fun experience for kids or for the dentist or parents. So it's much easier and better to get the kids in earlier when we can find these problems before they develop into something larger.
Un jeune homme a été arrêté, accusé d'avoir joué un rôle direct dans ce que la police qualifie d'attentat à la bombe à motivation politique contre une synagogue. La police antiterroriste affirme que cet homme de 21 ans est l'un des 3 responsables de l'incendie criminel de la synagogue Hadas Israël de Melbourne. La pression s'intensifie pour que la police procède à de nouvelles arrestations suite à l'incendie en décembre de 2024 qui a détruit 2 des 3 bâtiments de la synagogue. La police s'attend à de nouvelles arrestations et à de nouvelles inculpations. L'homme n'a pas encore été inculpé, mais la commissaire adjointe de la police fédérale australienne, Chrissy Barrett, affirme qu'aucune infraction n'est exclue et qu'elle s'attend à d'autres arrestations à l'avenir. Elle ajoute que la police pense que les acteurs étrangers ont participé à la planification de l'attaque.
Our investigation is not limited to Australia. It involves exploring criminals offshore. And we suspect these criminals worked with criminal associates in Victoria to carry out the arson attack.
Les Hawaïens semblent avoir échappé au pire risque de tsunami après que l'un des plus puissants séismes jamais enregistrés ait frappé l'extrême-orient russe, propageant des vagues de tsunami jusqu'au Japon et à travers le Pacifique. Les ports de la péninsule du Kamtchatka en Russie, près de l'épicentre du séisme de magnitude 8,8, ont été inondés, les habitants fuyant vers l'intérieur des terres et des vagues blanches et écumantes ont déferlé sur les côtes du nord du Japon. Aucun dégât important n'a été signalé à Hawaï jusqu'à présent, mais les autorités ont mis en garde la population contre les risques de tsunami et affirment que le risque pourrait durer plus d'une journée. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a déclaré avoir surveillé plusieurs vagues, mais aucune conséquence réelle pour l'instant.
So far, we have not seen a wave of consequence, which is a great relief to us. It's kind of a blessing to not be reporting any damage. We have seen significant water recede several times in Haleiwa, and there were 2 waves that were measured coming through the Midway Atoll. So right now, we still have not seen any wave activity come past the Big Island. That's important. Until we see what happens on the Big Island and the full wraparound of the islands, we won't feel that we are in a position to start seeing and saying that we're kind of in the clear.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adelaide, 15. Melbourne, 14. Hobart, 12. Canberra, 13. Sydney, 17. Brisbane, 21. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 17 degrés. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 13h16 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et c'est l'heure du journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal des sports de ce jeudi 31 juillet 2025. On commence bien sûr avec le championnat du monde de natation à Singapour et l'arrivée fracassante dans la compétition de Léon Marchand. Le Français de 23 ans a battu le record du monde du 200 mètres 4 nages lors des demi-finales, un record jusque-là signé Ryan Lochte et qui datait de 2011, et ce, avant même la finale prévue aujourd'hui. Cédric De Oliveira pour Radio France Internationale.
Il est irrésistible, Léon Marchand. Ce n'était qu'une demi-finale des mondiaux, mais le Français avait visiblement de grosses ambitions chronométriques. Et il l'a montré sur ce 200 mètres 4 nages, en nageant 1 minute 52 secondes et 69 centièmes, devançant largement l'Américain Shane Casas et le Britannique Duncan Scott. Le précédent record d'1 minute et 54 secondes de l'Américain Ryan Lochte a été pulvérisé. Marchand, à 23 ans, étonne encore par sa capacité à se transcender dans les grands rendez-vous. Lui qui avait annoncé vouloir alléger son programme sur ces mondiaux après une année post-olympique éprouvante, notamment mentalement. Son pari de participer à seulement deux courses individuelles à Singapour est déjà payant. Le Français, quadruple champion olympique à Paris, détient désormais les deux records du monde sur 200 et 400 mètres 4 nages. Et il visera donc un sixième sacre mondial en finale ce jeudi avec, pourquoi pas, un nouveau record du monde à la clé.
On l'écoute justement, Léon Marchand.
Je suis content parce que effectivement je voulais l'avoir ce record. Je savais pas quand ça allait arriver, mais cet après-midi, je me suis senti vraiment bien à l'échauffement. Et j'avais parlé à Bob un peu ce midi. On s'est dit que c'était peut-être le moment de le faire ce soir. Pour être plus relâche, pour essayer de gagner demain. Et là c'est même pas encore. Là, c'est 52, ça me paraît un peu irréel. Donc je sais pas trop comment expliquer. Après voilà, c'est les demi, il me reste encore une course demain. Mais franchement, c'était trop bien. J'ai pu m'exprimer à fond dans ce 204. J'ai pas relâché. J'étais vraiment plus dans le contrôle du tout. Donc ça fait du bien. Bah, demain, je vais essayer de gagner forcément. Ça va être une finale relevée quand même. Il y a tous mes potes dedans. Donc ça va être cool.
Autre performance à noter, c'est celle du Tunisien Ahmed Jawadi. Il a lui décroché le titre mondial sur 800 mètres nage libre. Le nageur de 20 ans, entraîné depuis 2023 par Philippe Lucas, est le troisième Tunisien de l'histoire à être sacré avec un titre mondial. Il sera au départ des séries du 1500 mètres dès samedi matin. Autre nageuse très impressionnante, c'est Cathy Ledecky. L'américaine a renforcé son statut de nageuse la plus titrée de l'histoire des mondiaux. Mathis Landais, RFI.
Avec ce nouveau sacre, Cathy Ledecky enregistre un 22e titre mondial, une 17e médaille d'or en individuel, chose que personne, même la légende Michael Phelps, n'a réussi à faire dans l'histoire des mondiaux de natation. L'américaine avait débuté son championnat du monde par une médaille de bronze dimanche sur 400 mètres, mais sur l'une de ses disciplines phares, le 1500 mètres, Cathy Ledecky s'est montrée intraitable. Longtemps proche de son record du monde, elle termine avec plus de 5 secondes d'avance sur la deuxième, Simona Quadarella, qui a elle pourtant battu le record d'Europe. Cathy Ledecky continue donc d'impressionner 13 ans après sa première médaille d'or olympique à Londres. Sa longévité fait sa force face à l'émergence des jeunes, voire très jeunes nageuses. Son adversaire principal, Summer McIntosh, la Canadienne de 18 ans qui l'a devancée et qui a remporté le 400 mètres il y a deux jours. Cathy Ledecky aura l'occasion de prendre sa revanche sur 800 mètres, sa spécialité. Rendez-vous samedi pour ce duel de génération qui promet.
Les États-Unis qui comptent 12 médailles au total mais pointent à la deuxième place avec seulement 3 en or, devancés par l'Australie, 8 médailles au total, 4 en or. Ces deux derniers jours, il y a eu l'or pour Kayleigh McKeown, 100 mètres d'eau femme, record d'Océanie, record des championnats. L'or également pour Molly O'Callaghan au 200 mètres nage libre femme, le bronze pour Lani Pallister au 1500 mètres nage libre femme, le bronze également pour Harrison Turner au 200 mètres papillon homme. Côté français, Johan Ndoye-Brouard décroche le bronze aux 100 mètres d'eau, portant le nombre de médailles françaises à 2. Au programme de ce jeudi, finale 200 mètres 4 nage homme, donc on le disait avec Léon Marchand. Finale 100 mètres nage libre homme à laquelle va participer le français Maxime Grousset qui a déjà gagné l'or il y a deux jours. Finale 50 mètres d'eau femme, finale relais 4 x 200 mètres nage libre femme et finale 200 mètres papillon femme. Après les championnats du monde de natation, il y a aussi les championnats du monde d'escrime à Tbilissi. Et là aussi, les couleurs tricolores volent haut, Eric Mamrut.
Avec la médaille d'or décrochée par l'équipe féminine de sabre, Sarah Balzer, Sarah Noutcha Faustine Clapier et Toscane Tori ont battu en finale la Corée du Sud, 45 touches à 37. Les Françaises avaient dû se contenter de l'argent lors des deux dernières éditions des championnats du monde. Le camp tricolore achève donc ses mondiaux d'escrime en Géorgie avec 6 médailles, dont 2 en or, en comptant celle remportée samedi par l'équipe masculine d'épée.
En cyclisme, le Tour de France Femmes se poursuit et la Mauricienne Kim Lecourte récupère le maillot jaune après avoir remporté la 5e étape hier mercredi. Un coup double que nous raconte Eric Mambrut.
La victoire d'étape et le maillot jaune en prime pour Kim Lecourte. La cycliste de 29 ans s'est imposée au sprint devant ses camarades d'échappée. En tête, les Néerlandaises Demi Vollering et Anna van der Breggen. Kim Lecourte qui entre ainsi encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme. Première africaine à avoir endossé le maillot jaune, c'était dimanche au soir de la deuxième étape. La Mauricienne devient aujourd'hui la première femme du continent à remporter une étape sur la grande boucle. Une Kim Lecourte plus que ravie au micro de France Télévisions et très reconnaissante envers ses coéquipières.
Je réalise toujours pas. Pour être honnête, ça s'est passé tellement vite. J'étais tellement focus. Je me concentrais sur les buts du jour. Et que si on finissait d'un petit groupe, c'était l'essai de prendre la victoire d'étape. J'étais vraiment chanceuse d'avoir un teammate, Sarah Gigante, avec moi devant. Elle a tout donné. Elle a roulé devant à 100% pour moi, sans même penser à sa position à elle. Donc vraiment, j'ai tout à la donner. Et puis l'équipe, en toute la journée, a été incroyable. Mais c'est sûr que passer de la ligne en première et gagner ma première victoire du Tour de France d'étape... Ouais, c'est vraiment un moment vraiment spécial. J'ai pas eu trop de larmes aujourd'hui, pour être honnête. Je crois que je suis toujours sous le choc.
Au classement général, Kim Lecourte reprend donc le maillot jaune à la néerlandaise Marianne Vos. La Mauricienne devance désormais de 14 secondes la française Pauline Ferrand-Prévot et de 33 secondes une autre batave d'Emmy Vollering. Demain, la route du Tour va s'élever avec une 6e étape particulièrement exigeante entre Clermont-Ferrand et Ambert.
Allez, en quelques mots, on passe au football et les premiers mots de la nouvelle recrue de Liverpool, le français Hugo Ekitiket, Eric Mambrut.
C'est l'un des transferts de l'été, l'attaquant de 23 ans acheté par les Reds à Francfort. Pour la modique somme de 90 millions d'euros, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui découvre actuellement sa nouvelle équipe du côté de Hong Kong à l'occasion d'un stage de pré-saison. Hugo Ekitiket, ravi de porter désormais le mythique maillot de Liverpool.
Je suis très très fier car c'est un très grand club. Donc je suis un petit peu comme un enfant. J'ai toujours rêvé de jouer en Première Ligue et en particulier pour Liverpool. C'est un sentiment énorme pour moi. Et je suis donc très impatient de commencer à jouer, à gagner avec ce club, des matchs, des trophées, d'avoir des succès ici. Pour moi, c'était le bon choix. La manière dont le club travaille, l'ambiance, les supporters, le stade, c'est la meilleure équipe en Angleterre et l'une des meilleures dans le monde. Donc pour moi, c'était l'évidence de choisir Liverpool. Depuis que j'ai parlé au coach, dans ma tête, j'en étais certain.
La saison a des transferts bat son plein et le championnat saoudien continue d'attirer des footballeurs de renom. C'est ce que nous explique Cédric De Oliveira.
Alors ce n'est peut-être pas le plus régulier, mais João Félix a déjà une longue carrière à 25 ans, passé par l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Milan AC en 2 saisons. L'international portugais quitte Chelsea pour lancer sa carrière à Al Nassr. Le montant du transfert est de 30 millions d'euros et pourrait atteindre 50 millions d'euros avec les bonus. À Riyad, João Félix retrouvera un certain Cristiano Ronaldo, mais aussi le Sénégalais Sadio Mané.
Un mot de basket à présent, l'Euro en vue pour l'équipe de France homme, Olivier Pron.
Un mois du début de la compétition continentale, l'équipe de France a en effet débuté son aventure, Andréane. Les joueurs de Frédéric Fautou ont démarré leur préparation à l'INSEP, près de Paris, avant un premier stage à La Roche-sur-Yon, dans l'ouest de la France. En l'absence des têtes d'affiche comme Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou encore Evan Fournier, c'est un groupe rajeuni qui s'est réuni. Un défi de taille pour les vice-champions olympiques, selon le manager général Boris Diaw.
Et une chose est sûre, bien sûr, c'est qu'on va être attendu avec les différents résultats qu'on a pu avoir sur ces dernières années. Et donc, il faut recommencer, reconstruire, repartir avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas été des acteurs justement dans les derniers résultats qu'on a pu faire. Donc, la passation est importante. Et donc ça, c'est ça qui va prévaloir dans cette préparation, c'est de pouvoir entretenir cette transmission entre les anciens qui ont pu vivre ça et continuer dans la même voie.
Boris Diaw avec Esteban Mirales. Début de la préparation le lundi 4 août, face au Monténégro, premier match amical. L'Eurobasket aura lieu à partir du 27. Ce sera en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne pour ce qui est des Français au premier tour.
Et enfin, on termine avec du tennis et le Masters 1000 de Toronto. Fatiguée par sa victoire au tournoi de Washington, la Canadienne Leila Fernandez s'est inclinée à domicile en 2-7 face à l'adolescente australienne Maya Joint, 6-4-6-1. Mais Maya Joint a, elle, ensuite été éliminée par l'américaine McCartney Kessler. C'est fini également pour les Français Corentin Moutet, Adrien Badarino et Hugo Gaston. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce journal des sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Passez une excellente journée.
Petite pause et on passe au journal de l'économie et vous serez en compagnie de Marianne Murat et de Nicolas Perpich.
C'est la chronique économie de la semaine avec Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Marianne.
On va commencer par parler automobile puisque les ventes des voitures électriques sont à des niveaux jamais vus.
Oui, tout à fait, tout à fait. Pour le mois de juin, on est arrivé à des niveaux, comme tu dis, jamais vus. Mais bon, en même temps, les voitures électriques font juste 10% du marché en tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y en a de plus en plus et des variétés. Par exemple, l'année prochaine, il y aura 70 nouveaux modèles de voitures électriques sur le marché australien. Donc vraiment, ça explose là. Et pour les consommateurs, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'avec plus de compétition, bien sûr, il y a des prix de plus en plus abordables, en particulier les voitures électriques chinoises. Il y en a qu'on peut acheter pour 30-35 000 $. Ça commence à devenir vraiment abordable. Et si on regarde, c'est toujours Tesla qui vend le plus de voitures électriques en Australie, à peu près 4 590 en juin. Mais quand on ajoute les voitures hybrides, et ben là, BYD, la compagnie chinoise, vend bien plus que Tesla. Donc il y a vraiment un changement qui se passe là. Et donc en juin, en tout, il y a eu plus de 13 000 voitures électriques vendues en Australie, ce qui est à peu près 10% du marché. Ça grandit rapidement, mais une des choses qui fait hésiter les gens ici en Australie plus que dans des pays plus petits géographiquement, c'est les distances. Et ça, c'était le problème dès le début, qu'on a des énormes distances ici en Australie. Alors les gens se demandent, est-ce que je vais pouvoir conduire 300, 400, 500, 600 kilomètres ou faire un grand voyage dans le Outback, par exemple. Et ça s'appelle « range anxiety ». C'est un peu ce qui crée un blocage et on a besoin vraiment de plus de stations de chargement autour de l'Australie pour que les gens sont moins inquiets. Mais ce qui devrait aussi aider le marché, c'est que le gouvernement a introduit aussi ce qui s'appelle des « vehicle emission standards ». Ça veut dire qu'il y a des limites de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre que chaque compagnie de voitures a le droit de produire ou de vendre en Australie. Donc ça va les encourager à vendre de plus en plus de voitures électriques. Donc ça va aussi ajouter à ce changement. Mais il faut vraiment ce qu'on appelle un National Charging Strategy, une stratégie autour du pays. Il y a certains pays qui font des choses différentes, mais il faut qu'il y ait des assurances pour les gens qui peuvent partir sans crainte en long voyage à travers l'Australie.
Et vous parliez des distances pour laquelle, avec la stratégie, on pourrait avoir une solution. Il y a aussi le fait qu'en Australie, il y a beaucoup de parcs nationaux et de chemins qui ne sont accessibles qu'en 4x4. C'est un pays très basé sur l'extérieur, sur le camping. Et c'est peut-être pour ça que les véhicules électriques ont mis longtemps avant d'être acceptés dans ce pays et qu'ils ne correspondent qu'à 10% des ventes aujourd'hui.
Oui, non, c'est tout à fait ça. Puis en plus, oui, voiture, il y a pas tellement de voitures électriques 4x4. Il y en a quelques-unes qui sont all-wheel drive, mais pour des vrais 4x4, c'est plus compliqué parce que ça va utiliser bien plus d'énergie. Donc ça va consommer beaucoup plus de la batterie. Donc ça devient compliqué si vraiment on veut faire du 4x4 avec une voiture électrique. Il y en a, mais ils sont très chers. Il y en a des hybrides. quelques-unes, mais ça devient un peu plus compliqué. Sûr. Et l'Australie, c'est vraiment un pays de 4x4 et de U's.
Encore, alors, oui.
Oui. Ouais.
On va passer à notre deuxième thème, Nicolas. C'est une bonne nouvelle pour de nombreux Australiens dont vous allez nous parler. Des milliers d'Australiens pourraient bientôt récupérer plus de 60 millions de dollars en frais bancaires. Expliquez-nous.
Oui, voilà. Donc ça, c'est des frais bancaires excessifs pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et donc ils ne devraient pas payer des frais de haut niveau. Et ce qui s'est passé, c'était que le Australian Securities and Investment Commission a enquêté à ce sujet et a dit aux banques ça va pas, vous êtes en train de faire payer beaucoup trop d'argent pour les frais à des gens avec des salaires bas, des gens sur avec des paiements de Centrelink comme JobSeeker ou la pension ou les paiements pour disabilité. Et ils ont dit qu'ils ont fait une revue de 21 banques et ils ont trouvé qu'il y a 800 000 clients qui ont payé trop et qui devraient donc récupérer cet argent. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est comme un cadeau. C'est pas vraiment un cadeau, c'est leur argent. Mais ça va devenir tout d'un coup maintenant, on espère. Par exemple, il y a une femme qui habite à Broome, en Australie-Occidentale, et récemment, elle a récupéré 10 ans de frais de la Commonwealth Bank. Et elle, c'est quelqu'un qui a un salaire assez bas où elle reçoit une pension de disabilité. Donc, c'est pas des frais qu'elle aurait dû payer. Mais c'est pas la première fois non plus, parce que la première enquête par ASIC a révélé que les banques Commonwealth Bank, Westpac, Bendigo Bank et ANZ ont fait la même chose avec des clients aborigènes, 150 000 personnes qui ont, eux aussi, auraient dû payer des frais, les minimums de frais, et qu'ils avaient payé le maximum de frais. Et là, c'était à cette occasion, il y a eu une question de 33 millions de dollars. Ça ne devrait pas se passer. Et bon, heureusement quand même, il y a l'agence comme Australian Securities and Investment Commission qui enquête à ce sujet et qui fait payer les banques, repayer cet argent aux gens qui le méritent, à qui on n'aurait jamais dû prendre cet argent dès le début.
Oui, voilà, c'est pas tant une bonne nouvelle plus qu'un juste rendu en fait.
Tout à fait, c'est un juste rendu.
Merci beaucoup Nicolas Perpich.
Merci Marianne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver à nouveau sur les ondes de SBS French, Natacha Gérante, qui fait partie du comité qui organise chaque année le Festival Suisse du Victoria. Bonjour à vous, Natacha.
Bonjour, comment ça va, Jean?
Ça va très bien en ce mois d'hiver, en cette journée d'hiver à Melbourne. On va parler du Swiss Festival 2025. C'est sur le front de mer à Williamstown Beach. Dites-nous, quel est le thème principal de cette année?
Oui, alors nous célébrons innovation cette année, mais aussi on va aussi célébrer la Journée nationale suisse. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait un peu plus tôt cette année, pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc on se réjouit de pouvoir fêter ça avec tout le monde. Et on aura ce qu'on appelle Innovation Hub. Donc on pourra explorer non seulement la culture, mais aussi les inventions suisses et quelques compagnies suisses aussi qui seront là pour montrer leurs innovations.
Donc, vous aurez ce hub de l'innovation. Y a-t-il beaucoup d'entreprises suisses établies ici en Australie?
Oui, quelques-unes. Une des plus importantes, c'est Keybird, je ne sais pas si vous savez ou si vous voyez les petites motos électriques que le Post, Australia Post, utilise.
Ouais.
Mais elles sont faites par Keybird en Suisse. Donc, voilà. Une petite anecdote suisse ici en Australie.
Et qu'est-ce que le public australien va découvrir en ce qui concerne la gastronomie suisse? Que va-t-on découvrir cette année?
Oui, alors on a un peu de tout. Le comité, on va vendre des pâtisseries du Swiss Patisserie qui se trouve in Beaconsfield. Donc on vendra quelques petites pâtisseries suisses pour fêter la journée nationale suisse. Mais on va aussi retrouver, et désolé, mon allemand est pas très bon, mais Rudschwitz, qui fait les saucisses chaque année depuis bien longtemps maintenant. Nous aurons de la raclette avec les Frenchies. Et des crêpes et plein d'autres choses aussi. Vous trouverez du rösti, qui est une petite spécialité suisse. Donc plein de petites de bonnes choses à manger sont servies ce jour-là. On va aussi trouver du fromage. On a un market alley, donc il y aura du fromage et plein d'autres bonnes choses à trouver.
Et donc plusieurs stands à découvrir au Festival Suisse.
Exactement, des stands et aussi de la musique. On a aussi Disco Dodo qui fait du silent disco avec un thème suisse. Donc on aura plein d'activités pour les enfants aussi.
Et donc les danses et le yodel traditionnel au rendez-vous?
Ah oui, bien sûr. On a les Guggen Music, c'est un groupe suisse, mais qui se trouve de la Nouvelle-Zélande, qui vient jusqu'ici pour la journée. Donc on est très contents de les recevoir.
Et donc, les gens auront aussi la possibilité de pratiquer plusieurs langues, l'allemand, le français et l'italien, en venant à ce festival?
Oui, clairement. Malheureusement, mon allemand n'est pas très bon, mon italien non plus, mais à chaque année, je fais ce que je peux.
Et comment est venue l'idée de choisir le front de mer à Williamstown Beach pour recréer ce charme alpin?
Oui, on pourrait dire qu'on se trouve un peu comme au bord du lac. Oui. On ne savait pas que c'était la mer. C'était plutôt on voulait quelque chose de plus local que l'année passée. Comme vous savez, on a fait à Mornington l'année passée, donc quelque chose d'un peu plus local pour les gens qui puissent venir nous visiter, prendre les transports en commun et que ça soit un peu plus simple pour se diriger. Mais c'est je pense que ça sera un très bel endroit aussi pour profiter de la journée.
Et même pour aller nager s'il fait beau.
Oui, mon Dieu, j'espère pas. Il fait vraiment froid. Mais bon, beaucoup de Suisses aiment se baigner dans le lac froid. Donc, qui sait, hein, peut-être.
On ne sait jamais. Et on a oublié la date du festival. C'est samedi prochain, le 2 août.
Oui, samedi prochain, le 2 août. de 10h à 5h du matin. Les enfants jusqu'à 18 ans, c'est gratuit.
Ouais.
Et après, il y a c'est 15 pour les adultes, for general admission.
Alors, c'est où exactement à Williamstown? C'est sur le front de mer
Oui, alors c'est à SeaWorks.
SeaWorks.
Donc, si vous mettez SeaWorks Williamstown sur Google Maps,
ouais,
vous trouverez aussi festival samedi.
Natacha, quel est le message que vous auriez pour inviter le public australien à venir à découvrir la fête nationale suisse et participer à cette fête nationale à Williamstown?
Oui, bah, j'ai envie de dire venez nombreux. C'est l'occasion parfaite de découvrir une richesse culturelle suisse et une ambiance festive et accueillante. Donc on vous attend avec plaisir et avec un peu de chance, vous verrez même des chiens suisses qui vont venir nous visiter aussi. Donc plein de belles choses et plein de cultures à voir.
Natacha Gérante, merci et bonne fête nationale pour le week-end prochain.
Merci beaucoup Jean.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et on continue l'émission de ce jeudi avec la série Australia Explained et on vous propose un nouvel épisode sur les Premières Nations et le système d'éducation en Australie. Présentation Bertrand Dungandamé.
L'éducation est une voie vers les opportunités, mais pendant trop longtemps, les étudiants autochtones d'Australie ont été confrontés à des obstacles. Si des défis subsistent, des changements positifs sont en cours. De plus en plus d'étudiants autochtones terminent leurs études. Les universités adoptent les savoirs des Premières Nations et des programmes menés par les communautés font une réelle différence. Dans cet épisode de Australia Explained, nous entendrons des experts et des étudiants autochtones en éducation parler de ce qui fonctionne, de l'importance de l'éducation culturelle et de la manière dont les savoirs autochtones et occidentaux peuvent s'unir au bénéfice de tous. Avant l'arrivée des colons européens, le peuple des Premières Nations transmettait leur savoir à travers des systèmes éducatifs riches, ancrés dans la terre, la tradition et la communauté. Un savoir vivant, transmis oralement, nourri par le lien à la nature et aux ancêtres. Ces traditions perdurent encore aujourd'hui et continuent d'offrir des perspectives uniques, précieuses dans un monde en quête de sens et de justice. Pourtant, le fossé éducatif demeure. Les élèves autochtones affichent en moyenne des taux de fréquentation scolaire plus faibles, ainsi que des performances plus faibles en mathématiques et à la lecture. Dans les universités, leur représentation reste largement insuffisante. Mais pourquoi cela? L'héritage du passé pèse encore lourd, discriminations historiques, manque de reconnaissance culturelle dans les programmes et inégalités économiques. 2008, un tournant symbolique. Le gouvernement australien présente des excuses officielles aux peuples autochtones et reconnaît les violences subies, notamment les enlèvements d'enfants arrachés à leur famille, à leur culture et à leur territoire. Cette reconnaissance marque aussi un engagement, celui de réduire les écarts entre populations autochtones et non autochtones, notamment dans le domaine de l'éducation. Sharon Davis a une voix forte et engagée, issue des peuples Bardi et Kija, aujourd'hui PDG de la National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation, la NATIEC, le rappelle avec force.
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school since the beginning. There's a recent report actually from NIAC, the National Indigenous Youth Education Coalition, that people can just look up and Google, and it's highlighted policies like the exclusion on demand policies, which was introduced in the early 20th century. They actually had the policies written where non-Indigenous families could demand the removal of Aboriginal kids from classrooms.
Au cœur de l'accord national sur la réduction de l'écart ou closing the gap, un changement fondamental, réformer la manière dont les gouvernements collaborent avec le peuple des Premières Nations. L'objectif, s'attaquer aux inégalités persistantes qui touchent les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Sharon Davis souligne l'importance des réformes structurelles comme la prise de décisions partagées avec les communautés et le développement d'un secteur éducatif contrôlé par les autochtones eux-mêmes.
des approches qui, selon elle, ne sont pas seulement symboliques, mais essentielles pour garantir une éducation adaptée, inclusive et porteuse d'avenir pour les jeunes des Premières Nations.
We know that Aboriginal community controlled organizations are the most sustainable way to address the needs of communities. And where our people lead education, we see better engagement, better outcomes, and stronger pathways for our young people. And probably hand in glove, just as important, is genuine partnership. So when our organizations have that decision-making authority, because we base our work on lived experience and not assumptions, and that's when you see real change.
Le docteur Anthony McKnight est un homme Awabakal, Gameroi et Yuin, travaillant au centre autochtone Wollonga de l'Université de Wollongong. Il enseigne et mène des recherches sur l'intégration de la pédagogie aborigène dans les programmes scolaires, les politiques et la pratique. Pour lui, la notion même de combler le fossé doit être repensée dans l'éducation autochtone.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding, but it leaves a massive gap back to their own education system. For me, it should be about the Aboriginal child in the middle, and then the two knowledges come together to that middle ground. Our students have got to be skilled to be able to live in both knowledge systems.
Pour Sharon Davis, limiter l'évaluation de la réussite scolaire à des indicateurs comme les notes en lecture ou le taux de présence, c'est passer à côté de l'essentiel. Elle rappelle néanmoins qu'il reste important de mettre en évidence le fossé dans les résultats scolaires. Davis cite les données nationales les plus récentes.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%, and compared to non-Indigenous students, it's around 85%. That comparison actually tells us that something in the system isn't working. The education system that we have was never designed for First Nations people. And when we see gaps in outcomes, that's more a reflection of how education has failed to serve Aboriginal and Torres Strait Islander students and young people learners, not the other way around.
L'année dernière, la jeune femme Camilla Roy, Rotary Lane, a célébré l'obtention de son HSC, High School Certificate, certificat de fin d'études secondaires, au lycée Dabo Senior College. Elle faisait partie de la plus grande cohorte d'élèves autochtones à obtenir leur baccalauréat en Nouvelle-Galles du Sud. Madame Lane affirme qu'elle doit sa réussite à un environnement d'apprentissage favorable.
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating or not. Year 12. That was the major thing for me, was the support around the school.
Son réseau d'accompagnement comprenait le personnel de l'école, des enseignants autochtones et les intervenants de la NASCA, la National Aboriginal Sports Corporation Australia, une organisation très active qui aide les élèves autochtones à se connecter à leur culture et à réussir.
I definitely had a lot of support from especially all the staff and also the NASCA workers. Like they'd come, they'd take you the lessons, they'd help you all the way through. And then the teachers were just there to help with anything.
Jenna Dell, la mère de Rotary Lane, est la directrice adjointe du Dabo Senior College, où sa fille a obtenu son diplôme. Elle a été la première de sa famille à aller à l'université et elle évoque l'évolution générationnelle de l'éducation autochtone.
I still got kids that come to me and I'll say, Miss, I'm the first one that's going to graduate in my family. Even that in itself is an accomplishment for our people. For me as an Indigenous person, and thinking about everything that we've overcome in this country, that is an accomplishment. Because all the adversities that we've faced as Indigenous people, we have still been able to conquer a Western way of doing things, which is education.
Rotary Lane va désormais étudier les sciences humaines avec une spécialisation en études autochtones. Elle explique que se sent inspirée pour soutenir d'autres jeunes de sa communauté à s'investir dans leur éducation et à se reconnecter à la culture.
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it, and it's been lost through generations because of what has happened. So hopefully help be part of the process to revive the culture, bring it back to life.
Il est important de noter que d'un point de vue autochtone, combler le fossé dans l'éducation signifie plus que l'amélioration des résultats. Il s'agit de valoriser les savoirs des Premières Nations, de donner aux communautés les moyens de diriger et de créer des espaces culturellement sûrs. Il s'agit aussi d'identité, de fierté et de s'assurer que les générations futures restent connectées à leur culture tout en réussissant selon leurs propres termes. Cet épisode de Australia Explained a été produit par Zoé Tomaidou. Je m'appelle Bertrand Tunganami.
Et en fin d'émission, un rappel des titres du journal de ce jeudi. Le Canada suit la France en reconnaissant la Palestine comme État souverain. Ce sera lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Le dernier rapport de la Commission de la productivité sur les objectifs nationaux Closing the Gap pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres révèle que les inégalités en Australie en matière de justice pour les mineurs, d'incarcération des adultes, de suicide et de placement des enfants hors de leur foyer continue de s'aggraver. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le week-end, 13h, samedi et dimanche. Et quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour le live à 13h. Bel après-midi, à bientôt. Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.